long défilé qui circule dans les villes et tout le monde est plus ou moins de côté, mais on traverse. Et à un moment, on a traversé et il y avait un Bouddha qui les gens mettaient de l'encens et quelqu'un traînait la charrette derrière lui et tout le monde passait avec de l'encens. Et alors, cette amie a traversé et elle est allée mettre de l'encens. Elle m'a regardé et moi, je ne l'ai pas fait. 5 minutes plus tard, elle m'a dit au revoir. Voilà. Donc, vous savez, pour l'amitié, pour beaucoup de choses, on peut trahir le Seigneur Jésus. Et je me suis dit, mais ça a tenu à quoi que cette personne ne me tourne pas le dos? Parce que c'était bon, quelqu'un que je connaissais comme ça. C'était hein, tous les 2 ou 3 mois, j'avais un coup de téléphone, est-ce qu'on peut boire un café? C'était ce genre de choses. Mais la personne l'a mal pris. On peut trahir le Seigneur Jésus. Oh, ce n'est qu'une baguette d'encens qu'on met devant Bouddha. On ne croit pas à Bouddha, on ne croit pas à l'encens, on ne croit pas à ce qu'il représente, on ne croit pas qu'il puisse faire quoi que ce soit. Mais bon, hein. Mais il y a des choses, des actions par lesquelles on peut trahir le Seigneur Jésus-Christ. Et il vaut mieux tout perdre que de perdre Christ. Et je peux vous dire, pour le péché, pour la convoitise, pour la désobéissance, nous trahissons Christ. Oh, ce n'est pas 30 pièces d'argent, ce n'est pas devant un Sanhédrin, mais néanmoins, c'est pour des choses vaines, des choses qui ont peu d'importance, que l'on a mis en balance le Seigneur Jésus-Christ, et finalement, on l'a trahi. Parce qu'on a estimé que, bon, ben, on pouvait se payer le luxe du péché, de la désobéissance, d'un chemin plus facile. C'est pour des amitiés, pour de meilleures relations, pour toutes sortes de choses. Je suis persuadé que Judas avait de bonnes raisons. Les raisons de Judas ne nous sont pas exposées, on peut les soupçonner, mais jamais personne n'a commis la moindre action mauvaise ou péché sans avoir de bonnes raisons qu'il a mises en balance et qui faisaient le poids pour désobéir et pour vivre dans le péché. Donc Judas trahit, et il était comme un élément étranger au milieu des disciples. Dans l'Ancien Testament, il était question de l'interdit, de quelque chose qui provoquait la colère de Dieu et la désapprobation de Dieu et la rupture avec Dieu. Si bien que le peuple, quand il y avait de l'interdit, était impuissant dans ces guerres et il ne pouvait plus avoir le dessus sur ses ennemis. Au contraire, les ennemis avaient le dessus sur lui. Donc Judas, dans cette communauté de disciples, avait été comme un interdit. Et le Seigneur Jésus, carrément, lui a dit ce qu'il devait dire. Et il a fait en sorte que Judas s'en aille. Et Judas est parti. Il a pris le morceau. Il a dit, celui que tu as à faire, fais-le, vas-y, je ne te retiens pas. Et il est parti pour trahir. C'est si bien que à ce moment-là, eh bien, le Seigneur Jésus pouvait entrer dans le vif du sujet, dans des révélations qu'il pouvait donner aux disciples qu'il n'aurait pas pu donner devant Judas. Donc, c'est pour cela qu'il y a ce mot « maintenant ». Hein, c'est dans l'évangile de Jean, il y a plusieurs charnières comme ça, et celle-ci n'est une. Hein. Il y a avant que Judas parte, et il y a au moment où Judas est parti. Et quand Judas est parti, il dit « maintenant, alors on peut rentrer dans le vif du sujet, maintenant j'ai des choses à vous dire ». Et c'est vous savez, le péché dans notre vie et le péché dans l'Église, ce sont de véritables obstacles pour une meilleure révélation de Dieu. Et je peux dire avec une certitude absolue qu'il y a le péché dans la vie du chrétien et il y a le péché dans la vie d'une église aussi. Parce qu'on peut considérer que l'église presque comme une personne. Il y a de mauvaises habitudes, il y a de mauvais principes, il y a de mauvaises pensées. et de mauvaises choses parfois qui circulent dans une église. Ici, c'est la réunion des disciples, c'est pour cela que je fais une application à l'église. Hein. C'est, après, individuellement, je vous l'ai déjà dit par rapport à Judas. Mais par rapport aux disciples, eh bien, il y avait un élément étranger. Il y avait quelqu'un qui amoindrissait la communion avec les disciples et le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui faisait obstacle à une meilleure révélation, à plus de progrès. Si bien que quand Judas est parti, eh bien, le Seigneur Jésus a pu parler de choses qu'il n'avait jamais dites à ses disciples. Quoiqu'elles étaient sous-entendues, et que ces choses avaient déjà plus ou moins été invoquées, mais si vous commencez avec l'évangile de Jean, vous ne trouvez pas l'amour après part, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, hein, là c'est l'amour. Mais ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, et le Seigneur Jésus n'a pas prononcé avant. C'est dans tous les évangiles, il faut arriver à ce moment-là pour que le Seigneur Jésus dise, aimez-vous les uns les autres. Parce que cet amour unique, cet amour fraternel, est un cadeau merveilleux. C'est quelque chose d'immense, qui dépasse toutes l'imagination humaine. C'est quelque chose que jamais nous n'aurions pu imaginer. Dans la communion humaine, quand je parle de communion, c'est plutôt des rivalités, c'est plutôt des tensions, c'est recherche à être le premier, à être le meilleur, à être le plus performant, à dépasser les autres. Bon, après, hein, on parle d'émulation, d'une juste rivalité, ça motive. Hein, on est, voilà, c'est comme on se donne des coups de poing dans la figure, mais on est quand même amis, hein, on finit toujours par se réconcilier. Mais néanmoins, bon, après, les séquelles restent. Mais enfin, bon, tout va bien. Hein, après, voilà. C'est le monde. Mais le Seigneur Jésus nous a apporté un élément nouveau. Quelque chose qui dépasse tout ce que l'homme pouvait imaginer. Ça ne pouvait pas être conçu avant. Mais le Seigneur Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Vous savez, ce qui est important, c'est de glorifier Christ. Quand les Judas s'en vont de notre vie, eh bien, Christ est glorifié. Quand ce qui prend la première place dans notre vie, quand ces choses quittent le territoire pour aller hors de notre vie, que nous mettons en dehors de notre vie, eh bien, Christ est glorifié. Parce que qu'est-ce qui est à rechercher? Quelle est la chose principale? C'est la gloire de Christ. Et nous pouvons toujours nous poser dans cette attitude, dans cette manière d'être, dans cette manière de vivre. Est-ce que Christ est glorifié? Et je peux vous dire, c'est le test qui doit, qu'on dirait, appliquer à toutes nos actions. Voilà, je me mets en colère contre un tel. Est-ce que Christ est glorifié? Hein, la réponse, je voulais pas besoin de vous la souffler, vous la connaissez. Mais si dans cette relation, dans cette nouvelle amitié, dans cette nouvelle perspective, dans ces nouveaux choix, est-ce que Christ est glorifié? Est-ce que je vais pouvoir glorifier Christ? Est-ce que je peux parler de ma vie, de tous les jours, à n'importe qui? Posez-vous parfois la question et dites-vous, est-ce que je peux confesser ce péché à un enfant? Et la plupart du temps, nous pouvons dire, ah non, même pas un adulte. Nos vies sont tellement salies, souillées par toutes sortes de choses que nous pouvons dire, ma vie ne glorifie pas Christ. Si notre vie était mise à la lumière, nous serions obligés d'admettre que dans cette situation-là, dans cet état de cœur, dans cette manière de penser, dans ces sentiments, je ne glorifie pas Christ. Et c'est pour cela que j'ai tant parlé de Judas, c'est pour cela qu'il faut mettre Judas en dehors de notre vie. Tout ce qui trahit Christ, tout ce qui a tendance à faire du compromis, à jouer un double jeu dans notre vie, qui est avec les pharisiens et qui est avec le Seigneur Jésus, qui a un pied dans l'église, un pied dans le monde, toutes ces choses ne glorifient pas Christ. Et il peut dire, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Si le Fils de Dieu, le Saint-Fils de Dieu, notre Sauveur, mon Sauveur, a glorifié Christ, ils ont été glorifiés, et s'il a glorifié le Père de cette manière-là, alors je crois que nous aussi, nous devons faire attention à le glorifier de cette manière-là. Parce que c'est le chemin où Christ est glorifié. Parce que qui glorifie Christ? Si ce n'est pas nous. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas les adeptes de tel ou tel mouvement. Ce n'est pas... C'est nous qui glorifions Christ. Dimanche dernier, il y a eu... On a parlé de l'Église persécutée. Et c'est... Vous savez, c'est une Église qui glorifie Christ. L'Église n'a pas à rougir de honte de ses frères et sœurs qui souffrent pour leur foi. Après, vais vous dire quelque chose, une confession. Ces gens croient pas tous la même chose que nous. Il y a des nuances et même parfois il y a de grosses différences. Mais ils sont nos frères et sœurs pour une bonne raison. C'est qu'ils glorifient Christ jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et nous qui avons la bonne doctrine, est-ce que nous serions prêts à glorifier jusqu'à la mort de la même manière? Oh, je vais vous dire, soyez patients avec ses frères et sœurs. Ils aiment Christ et ils le glorifient sans compromis. Parce qu'il leur suffirait de pas grand-chose. Il suffirait qu'ils prononcent quelques paroles. Il y a une confession de foi à Mahomet. Et cette confession de foi, il la récite, ça prend 10 secondes. Et ça y est, ils sont musulmans. Ils ont renié Christ. Mais ils ont la tranquillité. Mais ils sont prêts à perdre la vie pour Christ. Alors qu'ils ont trois paroles à prononcer. Je ne m'en rappelle même plus lesquelles et je ne peux même pas le savoir. C'est sur le drapeau. D'accord. Si vous voyez le drapeau saoudien, c'est écrit en arabe. Bon, si vous arrivez à le déchiffrer, c'est vous aurez la solution à votre problème. Mais ce sont des personnes qui glorifient Christ. Et je crois qu'il s'agit de savoir comment on le glorifie. Et le Seigneur Jésus, quand il a glorifié le Père, c'est parce qu'il a accepté la trahison de Judas. Il lui a dit, va, trahis. Je serai crucifié et je vais jusqu'au bout. C'est là qu'il a glorifié. Le Fils a été glorifié parce qu'il a pris cette décision de dire à Judas, vas-y, trahis. Je suis prêt jusqu'à la mort. C'est la volonté du Père. Et il a même dit, eh bien, le Père est glorifié dans ce que je fais. Et c'est pour cela que je vous dis, faites bien attention à la manière dont vous vous conduisez, comment vous vivez votre vie, vos choix, même les plus insignifiants, même les choses, c'est caché, personne ne vous a vu. Est-ce que dans cette action, vous avez glorifié Christ? Est-ce que vous avez été prêt à souffrir pour Christ? Je vais vous dire, soyez prêts à tout perdre pour Christ. Ne pas avoir raison. Soyez acceptés d'être calomniés, d'être mal jugé, de souffrir même des injures. Si vous vous mettez en colère parfois, vous n'allez pas glorifier Christ. Je me rappelle un jour, j'étais dans une colère terrible. Parce que tu peux être en colère sans que personne ne le voie. Et donc j'étais terriblement en colère, mais bon, personne ne le voyait. Et j'ai décidé de parler vertement à quelqu'un pour lui mettre les points sur les i et les barotés, comme on dit. Et puis, au moment où j'allais le faire, le Seigneur me remplit d'amour et de compassion pour la personne que je voulais apostropher d'une manière... Mais j'étais stupéfait de ces sentiments changés dans ma vie. Changés totalement. Et je n'ai pu parler avec cette personne qu'avec amitié. J'ai rendu grâce à Dieu parce que ce n'était pas moi. Je n'étais pas capable de ça. Et j'étais beaucoup trop en colère pour mettre les choses, avoir de pareils sentiments. Il a fallu que ce soit l'Esprit de Dieu, que ce soit Dieu lui-même qui intervienne pour changer mon cœur. Et je rends témoignage de cela, que Dieu peut changer notre cœur et notre manière de penser. Parce que le but d'un chrétien, c'est de glorifier Christ et pas d'avoir raison. Si nous avons raison au point de déshonorer Christ, alors vous avez complètement manqué votre but, vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon. Christ doit être glorifié. Alors c'est pour cela que j'admire beaucoup ces frères et sœurs qui souffrent pour leur foi et qui souffrent avec patience. Et vous savez, ils sont la gloire de notre Église, de l'Église du XXIe siècle. Ça, c'est la gloire de l'Église. C'est rendez grâce à Dieu pour ses frères et sœurs, priez pour eux, ne les oubliez surtout pas, mais rendez grâce à Dieu pour des frères et sœurs qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour glorifier Christ. Et vous pouvez vous poser la question, et moi, est-ce que je glorifie Christ? Est-ce que je ne suis pas capable de souffrir un petit peu d'injustice? Est-ce que je ne suis pas capable de souffrir un petit peu de frustration? Un petit peu de manque? De cette convoitise? De ce petit peu plus de confort? De ce petit peu plus de ceci ou peu plus de ça? C'est et souvent quand je suis tendance à me plaindre un petit peu au fond de moi-même, eh bien, il y a une pensée qui me revient. Et les frères et sœurs qui sont dans le dénuement le plus complet parce qu'ils sont persécutés, est-ce qu'ils mangent tous les jours à leur faim? Est-ce qu'ils ont tous les vêtements qu'il leur faut? Est-ce qu'ils ont même un toit sous lequel ils peuvent se réfugier? Est-ce que quand il pleut, ils ont quelque chose sur leur tête? Et combien de fois, mes frères et sœurs, j'entends parler contre la pluie, et contre le soleil, et contre ceci, et contre le froid, et contre ces choses, et à chaque fois, je dis, je suis content des choses parce qu'elles viennent de Dieu. Alors la personne régulièrement me dit, oui, c'est vrai que ça revient de... Mais ne nous plaignons pas de toutes ces choses, parce qu'elles nous viennent de Dieu. Nous ne sommes pas capables de subir une petite frustration. Il y a des gens qui perdent leur vie. Parce qu'ils sont chrétiens. Et nous, parce que nous avons quelques gouttes d'eau sur la tête et on a oublié le parapluie, eh bien, on se met en colère. Et je me dis, mais c'est Dieu qui envoie la pluie, alors nous sommes en colère contre Dieu. Et ces gens ne sont même pas en colère contre leur bourreau. Je vois encore c'est l'image de cette femme qui est allée voir, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et l'autre qui lui dit, mais on sait très bien ce qu'on fait. C'est, ben oui, il savait très bien ce qu'il faisait, mais il ne sait pas à qui il le fait. Et il ne sait pas qui il persécute réellement. Il croit qu'il persécute un chrétien, mais c'est Christ qui est persécuté. Mais donc il ne savait pas ce que elle avait bien dit et il a pas mal compris. Mais je me dis, ces personnes-là sont capables de prier pour leur bourreau et nous sommes ennemis de Dieu parce qu'il nous envoie de la pluie et au moment où nous aimerions bien qu'il y ait le soleil et que la pluie, eh bien, on a oublié le parapluie et zut, c'est la pluie qui arrive. C'est comme par hasard, hein? C'est à chaque fois que j'oublie le parapluie, c'est là il pleut. Non mais vous l'avez pas dit ça? C'est la confession aujourd'hui, hein, je vous confesse. Mais c'est vrai, je l'ai dit, je l'avoue, et vous l'avez dit. Et aussi vous l'avez pas dit, vous l'avez pensé, et vous l'avez pensé même fortement. C'est comme ça, et c'est vrai pour la pluie, c'est vrai pour les embouteillages, c'est vrai pour tout. On n'est pas prêt à glorifier Christ dans des moments. Ou justement, qui va avoir la victoire? Hein, je suis en tension là. Il y a un problème. Qui va avoir la victoire? Qui va être vainqueur? Satan ou Christ? À qui je vais donner gloire? À Satan ou à Christ? Il n'y a pas de milieu, vous savez. Il n'y a pas un purgatoire. Nous n'avons pas le choix. Si nous n'avons pas glorifié Christ, nous avons glorifié l'ennemi de Christ. D'une manière ou d'une autre. Quoi que vous fassiez. Vous savez, on est des adultes. Il faut regarder les choses en face. Il ne faut pas se jouer la comédie. Si vous jouez un rôle, si vous estimez que vous êtes meilleur chrétien que les autres et que vous avez toléré de certaines choses, eh bien, je vous dis, je vous encourage à vous regarder dans la glace et de dire, ben non. Le miroir, hein, c'est la parole de Dieu, hein, c'est cette glace-là que je vous. C'est pas le miroir de tous les matins, hein, mais c'est la parole de Dieu, c'est dans ce miroir-là. Est-ce que je vis selon l'enseignement de la parole? Est-ce que je suis quelqu'un de doux, de patient, de compatissant, de miséricordieux? Est-ce que j'aime les frères? Est-ce que je veux glorifier Christ? Est-ce que ma vie est en règle? Et je peux vous dire, si vous ne passez pas ce test, arrêtez-vous. Et arrêtez-vous, c'est une urgence. Vous ne glorifiez pas Christ. Vous glorifiez l'ennemi de Christ. Parce que, comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas de milieu. Vous n'avez pas le choix. C'est plutôt vous avez le choix, un bon et un mauvais. Mais je vous dis, vous n'avez pas de bon choix. C'est très important de faire la part des choses. Comme le Seigneur Jésus a vécu dans le monde, nous aussi nous devons vivre. Hein, c'est un verset dans l'Épître aux Colossiens. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Il n'y a pas de mystère. Tel il est, tel il a été, tel nous sommes. Nous devons passer par les mêmes chemins, par les mêmes épreuves, par les mêmes tensions. S'il a dit aux disciples, si on a fait ces choses au bois vert, qu'est-ce qu'il en sera du bois sec? Et ne vous faites pas d'illusions, vous n'êtes pas le bois vert, vous êtes le bois sec. Hein? Et j'en suis aussi. Donc si on a fait toutes ces choses, si on a traité le Seigneur Jésus de Satan et de disciple du diable et tout ça, eh bien on fera la même chose pour nous. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais dans toutes ces choses, il s'agit toujours de faire en sorte de glorifier Christ par notre amour, notre patience, notre douceur, notre compréhension, notre renoncement à nous-mêmes, notre joie dans les épreuves, dans les moments difficiles. C'est cela, vous savez, porter la croix de Christ. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. J'oublie quelque chose. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, si quelqu'un veut être mon disciple. Et il y a, c'est pas très long, hein, mais ces règles-là, ben, il faut les respecter. C'est-à-dire de glorifier Christ. Et c'est un malheur, vous savez, de toujours vouloir avoir raison. C'est toujours vouloir avoir raison. Et même quand on a raison, eh bien, on veut prouver qu'on a raison. Voilà. Et ben, même parfois quand on a tort. Hein. Bon, après, ça, c'est mal. Mais vous avez raison, ben, vous avez raison. Et vous le savez au fond de vous-même. Mais pourquoi chercher une dispute, une tension, une querelle pour avoir absolument raison et prouver que vous avez raison? C'est très important de se dire, voilà, mon Seigneur Jésus est passé pour un malfaiteur, pour un hypocrite, pour un menteur, pour un mangeur et buveur, pour un ami des publicains, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Et qu'est-ce qu'on ne dit pas encore aujourd'hui sur lui? Parce que les ennemis de Christ n'ont pas fini de salir sa réputation. Mais qu'importe, si on parle mal de nous, on fait cela au Seigneur Jésus-Christ, eh bien ce n'est pas étrange qu'on nous le fasse à nous aussi. C'est comme cela. Il y a même ce verset qui dit « Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ auront des persécutions. » Alors vous voulez marcher pieusement? Alors, c'est comme une règle mathématique. Hein. C'est une loi, je pourrais dire, mathématique. C'est comme cela. C'est une loi de la vie chrétienne. Vous voulez marcher pieusement? Vous voulez marcher près de Christ? Vous voulez vivre en paix avec Christ? Alors, vous aurez des personnes qui vont vous haïr même, qui vous feront du mal, qui parleront mal de vous, qui saliront votre réputation. Et même, parfois, eh bien, il y a des gens qui vont jusqu'à la violence. Parce que vous aimez Christ plus que tout, parce que vous voulez le glorifier en tout. Et on trouvera que vous êtes un peu trop, que vous n'êtes pas assez, que vous êtes ceci et que vous êtes cela. Mais il est peut-être, mais il fait ceci, mais il fait ça. Mais c'est des soupçons, parce qu'on se dit quand même, sa vie elle est trop, trop propre. S'il y a quand même quelque chose, il nous cache quelque chose. Et la plupart du temps, on ne cache rien. On veut vivre avec Christ et on veut marcher dans sa paix, on veut vivre dans sa communion, on veut vivre dans sa justice. Donc souvenez-vous, le Seigneur Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Si vous voulez glorifier Christ, mais vous serez glorifié aussi. Parce qu'il y a une vie chrétienne qui apporte une satisfaction intérieure. Parce qu'on marche avec Christ, on vit dans sa communion, mais il y a une approbation des gens de bien. Des personnes qui sont droits, qui aiment Dieu, qui veulent vivre et qui approuvent votre vie. Et alors c'est une gloire. Alors ce n'est pas une gloire dans le sens où on tire de l'orgueil de ces choses-là, mais c'est une justification, c'est une approbation, c'est quelque chose qui fait que, ben, comme le Seigneur Jésus, il a fait ce qu'il fallait faire. Et tous ceux qui étaient du côté du bien et qui étaient du côté de Dieu, eh bien, approuvent ce qu'il a fait et il est glorifié à cause de ce qu'il a fait. Et si nous agissons de la même manière, eh bien, c'est comme nos frères et sœurs qui sont persécutés, eh bien, on en parle et on parle d'eux et ils sont pour nous un exemple. Et ils sont la gloire de l'Église, comme je vous l'ai dit, et c'est une gloire pour eux. Et je peux vous dire, la couronne qu'ils vont obtenir quand ils seront dans la présence de Dieu pour l'éternité brillera certainement beaucoup plus que la nôtre, qui avons bien été confortablement installés, qui avons une vie facile. Hein. On n'a pas été au même rang que dans les persécutions. Donc, il y a une gloire à servir Christ et à marcher avec lui. Et c'est dans ce sens, hein, de modestie, hein, une gloire modeste. C'est-à-dire que au tribunal de notre conscience, eh bien, nous sommes dans la paix avec Dieu et dans la tranquillité, et nous sommes dans la joie de Christ et dans la paix. Il y a au fond de nous-mêmes une petite voix qui nous dit, c'est bien, continue, ne t'arrête pas, tu n'es pas encore arrivé, c'est ne te repose pas maintenant, ce n'est pas l'heure du repos. Le repos, il est plus tard. Maintenant, il faut encore lutter. Fais attention, prends garde, tu te tiens debout pour l'instant. Si tu te reposes sur toi-même, tu risques de tomber. Continue dans le chemin, ne te laisse pas aller. C'est très important, vous savez. Il y a une contrepartie. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Et ça, c'est la résurrection dont il est question ici. C'est le Père a approuvé l'œuvre du Fils et il l'a glorifié en le ressuscitant. Et vous savez, le Fils de Dieu crucifié qui a remporté la victoire sur Satan, sur le péché, sur le monde, parce qu'il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'avait pas encore donné sa vie. Mais si à cette époque il pouvait dire, j'ai vaincu le monde, parce qu'il a résisté au monde et à l'esprit du monde, il a résisté au diable, il a combattu le diable, et c'est à la croix, il a triomphé. Quoique le diable l'ait accablé, eh bien, il a triomphé. Et le Père l'a ressuscité. Et non seulement il l'a glorifié en le mettant, non seulement ressuscité, mais il l'a glorifié en le mettant à sa droite pour l'éternité. C'est le Fils a une gloire incomparable du fait qu'il a donné sa vie il nous a aimés, mais il a obéi au Père jusqu'à donner sa vie pour nous. Et le Père l'a glorifié. Il a approuvé l'œuvre de Christ à la croix. Et il a ressuscité. Et le Seigneur Jésus prophétise sur ce qui va arriver. Il l'a glorifié. C'est comme si c'était accompli, mais ce n'est pas encore fait. Il n'a pas encore donné sa vie. Il n'a pas encore été crucifié. Mais il sait qu'il va aller jusqu'au bout. Et qu'il va donner sa vie. Et qu'il sera crucifié. Parce qu'il ne pourra pas faire autrement que de le faire. Parce qu'il a le choix est là. Le choix a été fait. Comment dire, là aussi c'est presque mathématique. Quand nous marchons dans l'obéissance, quand nous marchons exactement dans les commandements de Dieu et que nous faisons exactement ce qu'il nous demande, eh bien, Dieu s'occupe de notre vie. Dieu est avec nous. Il y a une compensation. Même si il y a des moments difficiles, même s'il y a des épreuves terribles. Vous savez, on a parlé cette femme avec un coup de machette et le bras coupé. Mais une chose est certaine, c'est que la plupart des personnes qui ont subi des outrages peuvent dire que à ce moment-là, je n'ai rien senti. J'étais dans une paix tellement profonde avec le Seigneur que j'ai reçu des coups que je n'ai pas sentis. Même il y avait un homme qui, au moment d'être brûlé, parce que cette question est débattue depuis longtemps. Hein. Est-ce qu'on souffre vraiment quand on est dans un bûcher? C'est a priori oui. Mais comme la question a été soulevée, ben, il y a un jour un frère qui était, il a été condamné à être brûlé vif, et on lui a dit, ben, tu vas souffrir. Il a dit, eh bien, écoutez, quand le feu aura brûlé les cordes, si je souffre, je vais rester dans le bûcher. Mais si je ne souffre pas, je lèverai les bras vers Dieu. Et au moment où les cordes ont été brûlées, il a levé ses bras pour dire, je ne souffre pas. Il y a la grâce et la miséricorde de Dieu de nous donner la force, non seulement d'endurer des injures et de supporter des méchancetés, mais aussi d'enlever aussi la souffrance. Après, bon, je suis pas passé par là, mais je peux vous dire, il y a une joie céleste, une joie de Christ dans notre cœur, dans les moments difficiles, quand nous voulons vraiment glorifier Christ, qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer ou penser, et qui console vos cœurs, et qui vous donne de la force, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne ce que vous n'auriez jamais eu si vous n'aviez pas cherché à glorifier Christ et à vivre pour lui et à lui donner votre vie entièrement. C'est donc que Dieu nous glorifie. Il nous compense. Il y a quelque chose. Alors, comme je dis, ce n'est pas la gloire de ce monde hein, qui adule et qui dit « Ah, gloire à un tel, il a fait ceci, il a fait ça ». Mais cette gloire que Dieu nous donne, c'est cette satisfaction intérieure, cette joie parfaite, c'est l'approbation de Dieu dans notre vie. C'est ce témoignage de l'Esprit de Dieu qui nous dit « Continue dans le chemin, ne t'arrête pas, ne te laisse pas aller à la colère, parce que si tu t'y laisses aller, tu perds beaucoup plus que simplement la satisfaction de t'être mis en colère. » C'est comme cela. Il y a une gloire, parce qu'il y a une joie, parce qu'il y a une paix, parce qu'il y a quelque chose qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Jamais, jamais, dans tout ce que le monde peut offrir, il y a une compensation qui peut payer la perte de notre joie et de notre paix et de notre communion avec Dieu. Il n'y a aucune comparaison. C'est la joie céleste qui est en nous et qui remplit notre vie, dépasse tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Jamais. Vous pouvez être au premier rang de ce monde. Vous pouvez être reçu par les grands de ce monde, mis en avant. Tout cela n'est rien. C'est en comparaison de la joie qu'il y a dans notre cœur et de la paix. Je peux vous dire, le Seigneur Jésus, à cause de la joie qui lui était réservée, a souffert l'ignominie et toutes les souffrances. Il est allé jusqu'au bout, parce qu'il y a cette joie, cette communion parfaite avec le Père, cette obéissance sans faille, sans défaillance, sans aucune question. Il est allé jusqu'au bout pour la gloire du Père, pour obéir au Père, pour glorifier le Père, pour faire l'œuvre que le Père lui a demandé de faire. Et vous savez, cette œuvre magnifique est notre salut. C'est parce que le Fils de Dieu a souffert sur la croix pour nos péchés, qu'il a payé la dette qui était sur nous, que nous pouvons être sauvés et réconciliés avec le Père. Et nous avons, comme je vous ai dit, tel il est, tel nous sommes dans le monde, nous aussi, dans notre obéissance, dans ces choix que nous faisons d'être tout entier à lui, de vivre pour lui, de le glorifier entièrement et de toujours chercher à ce qu'il soit glorifié, eh bien, il y a des fruits. Il y a des fruits à salut pour les âmes perdues, mais pour les frères et sœurs, parce que nous sommes un témoignage que dans notre vie, eh bien, il y a quelque chose, qu'il y a une vie qui dépasse ce que l'homme peut imaginer ou penser. Parce qu'au fond de soi-même, chaque être humain aspire à quelque chose qu'il recherche, qu'il recherche, qu'il recherche par tous les moyens. Certains c'est l'alcool, d'autres c'est... Bon, je ne veux pas les nommer toutes ces choses. Hein. Mais en fait, c'est une recherche de quelque chose qui... un vide. Et ce vide, c'est la communion avec Dieu. C'est la paix parfaite. C'est la joie céleste. On sait que nous sommes... qu'il y a, un manque dans notre vie. Parce que nous sommes créés pour ça. Nous sommes créés pour avoir cette joie. Et quand nous ne l'avons pas, eh bien, il y a cette recherche. Et c'est une recherche folle, hein, et inassouvie, qui va dans tous les sens. Et quand nous sommes sauvés, eh bien, il y a nous sommes le témoignage de ce quelque chose accompli dans notre vie. Et les autres qui le voient se disent, mais ça, j'aimerais bien. Que c'est quelque chose qui me donne soif. J'aimerais bien. Je me rappelle, quand j'étais pasteur à Perpignan, nous avons eu un réveil, un petit réveil, mais c'était un réveil quand même. Et bon, c'était un réveil parmi les hommes et parmi les jeunes hommes. Donc on était une vingtaine, 20, 25, toujours ensemble, toujours à prier, toujours... voilà. Et si bien que chaque... tout le monde conduisait un petit peu, on prenait un autostoppeur, régulièrement l'autostoppeur arrivait dans la salle et se convertissait. Voilà. Et il y a même un Palestinien qui est arrivé un jour et qui s'est converti. Et alors, il a dit, ça, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Et là, enfin, je le découvre. Il a dit, voilà, c'est ça, c'est pas autre chose. Et c'était le témoignage de beaucoup de personnes de dire, voilà, c'est ça, J'ai cherché ça. C'est, je mets enfin un nom à ce que j'ai cherché, ce besoin, ce vide, cette soif, ce quelque chose que je ne peux pas nommer, mais ce quelque chose, c'est Christ. C'est la joie de Christ, c'est la paix de Christ, c'est la communion de Christ, c'est Christ en plénitude, c'est Christ glorifié dans notre vie, c'est Christ suivi jour après jour, c'est Christ la lumière de notre vie, c'est Christ tout ce dont nous avons besoin. Si nous avons Christ, nous avons tout. Il ne nous manque rien, au-delà de toute mesure. C'est là que nous voyons que l'œuvre de Christ sur la croix, j'étais glorifié, je t'ai glorifié sur la terre. Oui, en effet, nous sommes les disciples de Christ. Si nous voulons assumer d'être disciples de Christ, alors nous allons être comme Christ. Et alors comme Christ, eh bien nous allons gagner les autres à Christ. Par cette joie, par cette paix, par ce désir de toujours aller de l'avant pour Christ, le glorifier en toutes choses, parce que c'est Christ. Et c'est la raison pour laquelle, dans les persécutions, quand les chrétiens sont tellement persécutés, il y a tant de conversions. Satan fait une œuvre toujours. De toute façon, la sagesse n'est pas de son côté, hein. Donc il ne peut pas faire quelque chose de sage. Il croit qu'il est sage, mais il est plus insensé que c'est possible. Mais c'est dans ces moments-là, des inconvertis voient des chrétiens avec une joie céleste, une joie inexprimable, une joie qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Et ils se disent, mais c'est ça, c'est ça. On les persécute, on leur fait du mal, on fait tout ça, et eux, on ne leur enlève pas la joie, on ne leur enlève pas. Mais comment c'est possible? Et ils se mettent à la place, ils se disent, mais si j'étais moi, non, je renie tout. Et même si je ne renie pas, parce que bon, il y a des fanatiques aussi, eh bien, mais je n'ai pas cette joie. C'est, j'ai pas cette paix. J'ai rien de tout ça. Ils se disent, mais c'est ça. Et c'est comme cela que l'Évangile touche les cœurs, même dans les persécutions, et surtout dans les persécutions, dans les moments difficiles. Et c'est pour cela que je vous dis, quand vous êtes sous tension, quand il y a des difficultés, oh, ne laissez pas le Satan gagner. Ne le laissez pas avoir la victoire, parce que c'est là que vous êtes le témoignage de Christ, que votre vie est lumineuse, qu'elle est exemplaire. Alors, elle est en spectacle. Hein, c'est Paul qui disait, hein, nous avons été en spectacle aux hommes et aux anges. Nous sommes en spectacle. Et si parfois nous ne sommes pas en spectacle, hein, il n'y a que les anges qui le voient. Mais on prend l'habitude du combat et des victoires, des triomphes, des noms. Dans cette situation-là, je vais glorifier Christ. Ça va me coûter cher, mais je vais glorifier Christ. Je vais perdre des amis, je glorifierai Christ quand même. Je veux marcher avec Christ, je veux vivre pour Christ. Je vais perdre des occasions, je vais perdre de l'argent peut-être, je vais perdre des moyens, je vais perdre une position sociale, je vais perdre au-delà, mais je vais gagner Christ. C'est Paul qui disait, j'ai renoncé à tout pour gagner Christ. Et je regardais toute chose comme de la boue. C'est pour Christ. Je peux vous dire, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est beaucoup plus grand que peux vous expliquer et vous dire ce soir. C'est faites les bons choix. Faites les bons choix. Parce que les bons choix valent la peine d'être faits. Mais les mauvais choix coûtent cher. Ils coûtent très cher. Et ils coûtent la paix avec Dieu d'abord, la communion avec Christ, où vous avez comment dire, une communion, une sous-communion. Hein, vous n'avez pas perdu complètement la paix, mais vous n'avez pas la paix céleste, pas la joie parfaite. Mais vous n'avez pas glorifié Christ, vous n'avez pas triomphé, vous n'avez pas été le vainqueur dans une situation difficile, vous n'avez pas triomphé, vous avez perdu la bataille. Et c'est cela vous sera reproché au tribunal de Christ. Quand nous allons rencontrer Christ face à face, il dit, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Tu étais presque, mais pas complètement. Tu étais presque un disciple. Tu as voulu toujours avoir raison. Et tu ne m'as pas glorifié. Le Seigneur Jésus avait raison. Et il n'a pas répondu à Pilate. Je ne parle même pas d'Hérode. Hein. Hérode, il a laissé courir, hein. Mais il aurait pu imaginer, lui qui a guéri, hein, il a dit, Lazare, sors. et Lazare est sorti du tombeau. S'il avait dit à Pilate, je suis le fils de Dieu, mais Pilate serait tombé à genoux. Il était à la limite d'y tomber à genoux. Et c'est pour ça qu'il n'a pas répondu à Pilate. Parce que s'il l'avait dit, il aurait dit, je suis le roi des Juifs, Pilate se serait prosterné. Parce que il l'aurait fait, ça je peux vous le garantir. La parole puissante du Seigneur Jésus-Christ, il a simplement dit, tu le dis. Il n'a pas prononcé la parole. Il a dit, tu sais exactement ce que tu dis. Mais s'il avait dit, je suis le fils de Dieu, je suis le roi d'Israël, étant le roi d'Israël, le fils de Dieu, Pilate et toutes les cohortes romaines se seraient prosternées. Je peux vous dire que c'était les Romains étaient dans cet état d'esprit, ils attendaient quelque chose. Donc, quand nous glorifions Christ, que nous marchons avec Christ, eh bien, il y a quelque chose qui se passe autour de nous. C'est une parole du Cantique des Cantiques, il y a la Sulamite, et la Sulamite est entourée de jeunes filles. Elle est sur les murailles de Jérusalem, et à un moment, elle dit « Je cours ». Et puis, quelques mots plus tard, elle dit « Nous courons ». Parce que quand elle court, les autres ont envie de courir avec elle. Et quand nous marchons dans la vie chrétienne, eh bien, les autres courent après avec nous. Vous commencez tout seul, et il y en a d'autres qui suivent. Ne vous en faites pas. Allez-y, courez. Ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup de monde autour de vous, si vous êtes seul. Si vous avez Christ avec vous, vous marchez avec Christ, vivez pleinement la communion avec Christ, sans compromis, aucune défaillance. Et vous verrez qu'un jour, eh bien, il y a d'autres avec vous. Et je peux vous le dire par expérience personnelle, hein, parce que les gens ont soif. Et il faut leur donner soif. Vous êtes le sel de la terre. Et un des aspects du sel, c'est d'altérer, de donner soif. Et quand nous remplissons notre rôle de sel de la terre, eh bien, on donne soif. Les gens ont envie d'être comme nous. Voilà.